Nous avons déjà couvert sur l'antenne de Radio FMR le Fab Lab Festival, on l'a fait plusieurs fois, moi-même j'y étais l'an dernier, mais ça ne vous regarde pas. Mais pour une fois, nous souhaitions en parler avec recul, non seulement de l'impact réel des Fab Labs en France et en Europe, mais aussi de ce qu'amène cet événement structurant pour le mouvement DIY, Do It Yourself. J'ai inversé le Y, on ne coupera pas au montage. Nous avons la chance d'avoir au micro une personne qui participe à la vie quotidienne du Fab Lab Artilect, qui est le lieu hôte du festival, et qui est aussi impliquée dans l'organisation de ce week-end. Je reçois donc Camille Platevoet, formatrice en machine-outil au Fab Lab Artilect, cofondatrice de l'atelier Camille Arnaud, artiste pluridisciplinaire diplômée, scénographe d'exception et en tout cas extrêmement tolérante, vu comment je massacre son nom depuis au moins 9 minutes.
Carré et petit utile.
Camille Platevoet, c'est ça?
Oui.
Non, c'est pas ça. avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet, on va commencer par une confidence que j'essaie d'obtenir de la part des gens comme ça qui bricolent. Quand tu étais en primaire et au collège, qu'est-ce que tu bricolais? T'étais plutôt Lego ou mécano?
Plutôt les deux.
Et en soit, vraiment, quel est justement lequel de ces deux marques, ou est-ce qu'il y en a une autre que tu donnerais à un petit neveu ou à un petit enfant?
On a parlé du Capla ce matin, je crois que c'est aussi une bonne référence.
Non, le Capla, on les balance
Lego,
partout. Non, c'est les trucs de bois.
Ah oui, oui, oui.
Tu sais, on joue à Badaboom avec. La dernière fois, on l'a ramassé partout, c'était une horreur. En tant qu'artiste et surtout en tant que plasticienne, qu'est-ce qui t'a attiré en fait vers le mouvement maker?
La force des choses, je pense. Le fait de pouvoir fabriquer par soi-même des projets et mettre en forme des idées particulières.
Donc, on l'a dit, tu es diplômée aux Beaux-Arts, si je me trompe.
Oui, c'est ça.
Voilà. Donc, tu as eu l'occasion d'aller dans les ateliers d'artistes. Est-ce que, justement, tu as déjà vu des artistes qui s'étaient tournés vers des Fab Labs pour travailler?
Petit à petit, oui, après à ma connaissance, j'en fréquente pas forcément, mais oui, c'est chose de plus en plus commune, je crois.
Mmh. Et en fait, donc c'est vraiment par la force des choses, c'était quoi? Tu avais un projet à construire, tu avais quelque chose, un problème à résoudre, ou c'était parce que tu en as entendu parler?
Au début, j'y étais en fait. J'ai suivi ça un peu de loin, petit à petit. Après, je me suis. Petit à petit rapproché du Fab Lab, donc de Artilect. Oui, j'ai utilisé les premières machines lorsque j'avais un projet à réaliser avec des machines numériques. Voilà, sinon après à l'extérieur.
En fait, le projet est venu par la fréquentation du Fab Lab.
Pas forcément, ça dépend.
D'accord. Ok. Tu es arrivé donc au Fab Lab, Artilect Fab Lab, qui non seulement est le premier Fab Lab toulousain, mais c'est aussi le premier Fab Lab officiel en France qui a été installé. Toi-même, quand tu y as été, comment a été l'accueil?
L'accueil dans ce genre de lieu est assez convivial, de prime abord. Ensuite, c'est... Au fur et à mesure de la fréquentation, on s'adapte au lieu, on s'adapte aux machines, on s'adapte aussi à l'ambiance, et on est de plus en plus à l'aise avec ces outils numériques qui font des fois un peu peur.
Au départ, c'est intimidant.
Oui, je dirais comme tout lieu où on découvre petit à petit comment fonctionnent les choses, jusqu'où on peut aller avec certains outils. Voilà.
Donc on a parlé du mouvement Fab Lab. C'est un mouvement qui est relativement récent. Comment en fait est-il apparu? Est-ce qu'il est structuré? Et qui c'est qu'il y a derrière?
Alors aujourd'hui, le mouvement, je crois, est en train de se structurer, justement, avec le réseau français des Fab Labs, enfin, au niveau de la France, qui est né, justement, l'année dernière au Fab Lab Festival.
Ça, on va en parler, justement. Mais à l'origine, en fait, d'où vient le nom et le concept?
Le nom, donc, vient du... Le concept vient du MIT, du Massachusetts Institute of Technology, dans un cours donné par Niels Gerschenfeld dans le centre... des bits et des atomes, il me semble, où il a conçu donc le label et le concept des Fab Labs qui est aujourd'hui repris dans le monde entier.
Et en fait, il y a une espèce de labellisation justement qu'il donne. Il donne sa bénédiction, mais uniquement si certains critères sont en fait sont atteints. Quels sont justement les critères justement de la base qui fait qu'un Fab Lab est un Fab Lab?
Alors les critères sont très simples. Donc il y a une charte normalement auquel il faut adhérer déjà. Ensuite, les trois principes sont très simples. C'est simplement d'être muni donc de machines, outils numériques, d'être accessible, c'est-à-dire par le prix, le coût des machines, et aussi dans les horaires et l'ouverture donc des lieux, et après aussi par le partage simplement, donc le fait de pouvoir partager des connaissances, des savoir-faire et des machines du coup dans un lieu. Ensuite, la certification se fait par la Fab Lab Foundation, et donc des personnes prennent contact avec les porteurs de projets de Fab Lab pour certifier ou pas le projet.
Et en fait, c'est pas un mouvement qui est uniquement cantonné aux pays riches, puisque c'est un mouvement qui explose littéralement justement dans les pays en voie de développement. L'an dernier, au Fab Lab Festival, il y avait des représentants d'un Fab Lab burkinabé dans la capitale, Ouagadougou. Est-ce que je vais arriver à le dire? Je ne sais pas. C'est justement, c'est pas quelque chose qui est purement cantonné, je veux dire, au milieu universitaire ou à des grosses industries.
Non, justement, aujourd'hui, on voit aussi l'émergence des Fab Labs ruraux de plus en plus. Et notamment, ce week-end, donc, au Fab Lab Festival, on a une vingtaine de Fab Labs étrangers, et notamment plusieurs des pays d'Afrique, justement. Ouais.
Toi-même, pour en revenir, une fois que tu as commencé à travailler sur les machines-outils, est-ce que tu t'es essayé à l'électronique, voire à l'informatique? Est-ce que tu as essayé Makey? Est-ce que tu as essayé le développement avec des langages de script?
Alors en fait, c'était avant. Lors de mes études, justement, j'ai eu la chance d'avoir des ateliers pluridisciplinaires, donc de toucher à Pure Data, à l'Arduino. Mais après, arrivé au Fab Lab, en fait, ce qui m'intéressait, c'était surtout les machines de prototypage et de par ma pratique, tout simplement. Donc, je pense que j'ai toujours en tête certains projets à faire, à réaliser avec ce genre de code. Mais dans ce cas-là, je préfère partager le travail et collaborer avec des programmateurs qui sont... experts et qui manipulent avec beaucoup plus de facilité ce genre de langage que moi.
D'accord. Ça fait combien de temps en fait que tu es rentré chez Artilect maintenant?
Sincèrement, pas très longtemps, pas si longtemps que ça. Ça doit faire un an et demi tout au plus.
Et maintenant, le stade d'addiction, c'est combien de temps que tu passes par semaine là-bas?
Ça pourrait aller très loin, j'essaye de me limiter justement une journée par semaine, on va dire minimum.
D'accord, une journée complète. C'est ouvert de... Quels sont les heures d'ouverture en fait d'Artilect?
ça varie en fonction des personnes présentes, en fonction des jours. C'est ouvert du lundi au samedi. Après, je pourrais pas vous donner les horaires précises. Le lundi, c'est ouvert très tard et c'est très convivial. Après, voilà, il y a des grandes plages horaires disponibles.
Donc, tu es désormais là-bas, tu es formatrice en fraiseuse numérique. Quelle tranche d'âge du public ? Quel background professionnel en fait veulent toucher ce genre de machine?
Alors c'est très divers. Il y a autant des étudiants ou voire des collégiens qui
ah ouais carrément
ouais qui commencent à approcher le lieu, à être intéressés par ce qui s'y passe, par ces technologies.
C'est pas parce qu'ils sont en train de griller là, il y a le lycée des Arènes à côté, ils sèchent des cours, et que c'est plus sympa.
Ça, je j'irai pas vérifier.
Mais bon, forcément.
Mais donc voilà, la tranche d'âge, ça est vraiment très varié, jusqu'au bricoleur qui ne sait même pas comment fonctionne une clé USB par exemple. Donc c'est pour vous dire vraiment que le public est vraiment très large.
D'accord. Non mais je te rassure, hein, moi non plus, je sais pas comment ça marche. Moi je branche, j'utilise. Peut-être qu'un jour j'en ai coupé une. Je l'ai dissécrée. On parle quand même de fraiseuse numérique. C'est un gros engin, c'est un gros bébé. C'est-à-dire que c'est la sculpture, mais à la différence des imprimantes très propres où on dépose la matière, on creuse de la matière. Ça travaille sur quel volume en moyenne, maxi, sur ce type d'engin? Tu pars de quel volume brut en moyenne sur ce type d'engin?
Alors ça, tout dépend de l'outil qu'on a, de la machine.
Celui que
qu'on
tu utilises actuellement?
Alors celui qu'on a au Fab Lab, donc on peut usiner des pièces de 90 cm sur 60 de large.
Ah ouais, quand même.
Et là, on a reçu une nouvelle qui fait 3 mètres par 2 mètres. Donc on D'accord. va pouvoir usiner des plaques entières, à peu près des standards.
Je tiens à signaler, parce que Solarus l'a vu, mais nos auditeurs qui n'ont pas payé la redevance couleur ne l'ont pas vu, mais il y avait cette petite lueur dans l'œil. C'est... du coup, c'est intéressant. C'est quand même ces machines qui s'apprennent, qui... Pour utiliser, on part en fait de logiciels informatiques. Ça s'apprend comment ce type de logiciel? Et même, est-ce que les gens peuvent essayer à manipuler le logiciel chez eux avant de venir avec un modèle à sculpter?
Oui, tout à fait, puisqu'on essaye de dispenser des formations du coup au Fab Lab pour que les personnes deviennent autonomes et acquièrent les compétences le plus rapidement possible et deviennent autonomes sur l'utilisation des machines. Du coup, si la personne a déjà une habitude avec certains logiciels, elle va être autonome assez rapidement et va pouvoir acquérir le nouveau langage d'une interface particulière assez rapidement selon les logiciels qui dirigent les machines. Après, si la personne n'a pas du tout d'habitude et de compétences par rapport au logiciel, on essaye de travailler avec des logiciels open source aussi. Et à ce moment-là, ils peuvent chez eux télécharger les logiciels et se faire la main, même revenir au Fab Lab, échanger avec des personnes qui y connaissent un peu plus, exposer leurs problèmes et faire avancer comme ça leur projet petit à petit, coup par coup. Et tout un tas de personnes en fait sont présentes au Fab Lab pour apporter en fait des compétences ou solutionner tel type ou tel autre type de problème selon l'avancée du projet.
Donc on parle quand même d'engins qui sont assez importants, qui sont assez grands. Comment est-ce qu'on acquiert suffisamment d'assurance pour former des néophytes à des engins industriels d'un certain volume qui sont coupants, saillants, tranchants? Des fois, on se dit, ben moi aussi, j'ai appris, je vais apprendre. Ou c'est parce que les gens qui viennent vous voir, qui disent, ah, je vous ai vu utiliser, comment vous faites?
Il y a un peu de ça, en effet. Mmh. Après, Il y a des règles de sécurité à respecter, forcément. Mmh. Enfin, on va pas faire ça n'importe comment. C'est impressionnant, surtout notamment une fraiseuse numérique où l'outil tourne à 25 000 tours minute et avance. Donc ça va quand même assez vite. Si on fait n'importe quoi, ça peut faire quand même des dégâts. Mmh. Après, ça reste, en tout cas pour moi, assez accessible. Les interfaces sont très simples. La première étape, c'est de passer le pas, de dessiner, de faire un plan, de construire un plan, de l'exporter dans le bon format, de le lire après par la machine. Après, il existe des protections, enfin des règles de sécurité sur place dans l'atelier, et c'est assez simple d'utilisation.
C'est aussi un peu de bon sens quand même.
Un peu de bon sens et beaucoup d'expérimentation, puisque ça marche pas toujours du premier coup. Il y a des accidents aussi. Mais en même temps, c'est en testant.
L'expérience ne s'enseigne pas. Hein.
C'est ça. C'est en testant qu'on apprend et en expérimentant.
Alors, des gens arrivent, présentent des projets. Et parmi les projets qui arrivent et sur lesquels on demande, va un petit peu les aider, les coacher, leur enseigner des choses. Est-ce qu'il y en a qui te désolent ou est-ce qu'il y en a d'autres qui t'enthousiasment ? C'est quoi franchement ton coup de cœur actuellement ?
Oui, il y a des gens qui m'enthousiasment beaucoup. Après, moi, je fais des formations vraiment d'initiation. Donc le but pour moi, c'est vraiment que la personne qui n'y connaît rien, ou alors elle a déjà pratiqué un peu la découpe laser ou l'imprimante 3D, mais du coup elle n'a jamais pratiqué la fraiseuse numérique. Du coup, moi, juste mon but, c'est qu'elle se sente à l'aise et qu'elle comprenne les principes de base. Déjà, ça, c'est chouette que la personne soit autonome et guide la machine. Toute seule, puis pour après imaginer des projets et faire ses projets tout seul. Après, c'est toujours aussi très fascinant de voir quelqu'un non pas dessiner avec un stylo et une feuille, comme on pourrait le faire sur un logiciel de plan finalement, mais à partir de langage codé, et donc des K17-P21, où là, moi, je n'y comprends plus rien, mais où, à la fin, sort une forme quand même, une trajectoire d'outils, et une forme usinée. Donc, voilà. Mmh.
Et on reprend donc avec Camille Platevoet, donc cette émission de CPU. Et donc ce que vous venez d'entendre, c'était un enregistrement qui a été fait le 8 mai l'an dernier, 2015, lors donc de la 4e édition du Fab Lab Festival. C'est vrai, c'était un parti pris, sincèrement, hein, cette chronique. Mais on l'a dit justement précédemment, le premier Fab Lab est toulousain. Est-ce pourquoi l'événement de référence est à Toulouse et pas chez les Parisiens ?
Je pense par la tout simplement très naturellement, dans le sens où, vu que le Fab Lab de Toulouse Artilect a plus d'années d'ancienneté, on va dire, a commencé peu à peu à fédérer des gens et donc avoir une communauté de plus en plus peut-être structurée et forte, ce qui a permis de se reposer du coup sur une équipe de bénévoles ou de personnes simplement motivées et pour faire avancer ce genre de questionnement. Et donc petit à petit est née l'idée de créer un événement. Donc le Fab Lab Festival a commencé par des rassemblements autour de en invitant des conférenciers et en faisant des tables rondes, puis puis peu à peu à l'aménagement d'une halle de 3000 m² avec 5 à 10 000 personnes qui vont visiter le festival. Donc c'est vraiment peu à peu que les choses se sont faites.
C'est vrai que le multiple Artilect a un espace qui est absolument fabuleux, qui est, je crois qu'il y a pratiquement, tu as dit, il y a 5000 m² couverts, plus des locaux à côté pour faire des conférences et des ateliers. Et une cour, ce qui tombe très bien vu le temps qui s'annonce. Et cette année, donc, le Fab Lab Festival. Alors, c'est vendredi pour une journée professionnelle. C'est donc, entrée uniquement sur présentation de la mallette. Sur la mallette de bricoleur, où il valait mieux d'abord se préinscrire, je pense. Et samedi, dimanche, donc, c'est ouvert à tous. L'entrée est gratuite pour tous, si je me trompe.
Tout à fait.
Et donc, justement, pour ceux qui en ont la curiosité et qui vont s'y pointer, qu'est-ce qu'ils vont y découvrir ?
Alors, juste pour compléter, il y a le festival ouvre dès demain avec la journée des Fab Labs, avec l'AG du réseau français des Fab Labs qui se tient demain matin avec les Fab Labs français présents, du coup, pour élire le bureau de l'association. Et la deuxième journée, du coup, est réservée aux professionnels et universitaires aussi, aux chercheurs. Et donc, ce week-end, l'ouverture des stands commence déjà vendredi pour les universitaires et les professionnels. Et ce week-end, donc, on pourra y découvrir des courses de drones, des imprimantes 3D, des projets faits avec des imprimantes 3D géantes, ou des personnes qui fabriquent leurs propres huiles essentielles ou font leurs produits ménagers ou cosmétiques eux-mêmes, des robots et des ateliers Arduino. Donc voilà, le panel est très, très large, avec des ateliers autour de l'Arduino, autour de fabriquer des lampes soi-même, faire des sacs, ou encore plusieurs présentations donc de lieux, de Fab Lab français ou étrangers qui se montent, et des conférences et des tables rondes avec des sociologues aussi, des chercheurs, des économistes et autres. Voilà.
Donc je l'ai dit, c'est un événement qui est devenu un événement structurant au niveau national justement par cette association des Fab Labs. Actuellement, il y a combien de Fab Labs justement qui sont réunis au sein de cet événement, au sein justement de cette fédération, pardon.
Alors, je crois que ça évolue assez vite. Je dirais autour de plus d'une centaine. Après, je suis pas la meilleure personne pour en parler. Je ne fais pas partie de cette fédération.
Et il n'y a pas que des Fab Labs, justement, puisqu'on parlait tout à l'heure. Donc, il y a des drones. Alors, des fois, il y a des drones qui sont do it yourself, mais il y a aussi des drones plus ou moins industriels. On est plus, je vais dire, proche du modélisme aérien par la qualité de construction et des pièces qui sont disponibles. D'accord.
Oui, après, donc il y a des ateliers pour faire ces drones soi-même. Il y a des courses de drones organisées donc au festival avec la volière. Après, il y a aussi des outils, oui, issus de l'industrie qui sont présentés pour démocratiser un peu ce genre de bestioles, j'ai envie de les appeler comme ça.
Oui, ça vrombrit, ça fait un sacré bruit hein, quand même.
C'est ça, oui, ça peut faire un peu mal à la tête à la longue.
Et on a parlé donc justement d'ateliers. C'est un événement aussi qui est familial, on peut y aller avec des enfants. Il y a des animations pour les enfants à partir de quel âge ? À partir de quel âge ils peuvent venir et trouver un petit peu de quoi peut-être s'intéresser ?
Je crois que même un enfant de 3 ans pourrait trouver l'émerveillement dans ce genre d'événement. Après, oui, en effet, il y a un atelier pour les enfants et un espace enfant donc mis en place, et notamment géré par l'association Combustible à Toulouse.
Oui, Eugène, si tu nous entends.
Voilà, donc il y a vraiment de quoi s'amuser pour les petits et grands, sans problème.
Donc je l'ai dit, le premier jour n'est ouvert qu'aux professionnels. Alors ça fait quand même un petit peu bizarre entre nous pour un événement qui promeut la possibilité de construire au grand public. Pourquoi y a-t-il donc cette journée qui est réservée à un public averti ?
Alors, il me semble tout simplement parce que ce genre de lieu génère une énergie particulière, une synergie particulière entre des personnes novices qui n'y connaissent rien, qui sont peut-être attirées ou fascinées par la technologie ou la science, et d'autres personnes qui sont pour le coup expertes de par leur métier, leur profession ou leur passion simplement. Et donc ça fait, il me semble, une espèce de microcosme où les idées fusent et les échanges vont assez vite. De ce fait, un projet peut prendre le projet d'une personne peut prendre différentes formes et peut évoluer assez vite par la rencontre et grâce à la rencontre de l'autre et des autres personnes, qu'ils soient experts ou non en la matière. Et de ce fait, il me semble que c'est intéressant pour les entreprises, en tout cas, de se rapprocher de ce genre de milieu et de lieu, parce que ça peut bousculer justement une certaine manière de penser, un certain chemin préconçu pour l'innovation ou la démarche de création de projet, et un peu bousculer la manière de faire.
Sur cette journée professionnelle, qui sont finalement les plus demandeurs? C'est les TPAE, les PME, les écoles d'ingénieurs, les chambres de commerce et d'industrie, les collectivités locales, les grandes entreprises, les organismes nationaux?
Vous les avez cités, je ne pourrais pas vous dire qu'il y ait plus de préférences ou d'une autre. Justement, la journée des professionnels est faite pour comprendre en fait aussi ce qui se passe avec les interactions des entreprises de petite ou grande échelle. Puisqu'on sent qu'il y a un engouement pour ce genre de mouvement, des makers, ou même des Fab Labs, ou même des hackerspace, etc. Et je crois qu'on ne comprend pas forcément très bien, on n'a pas encore vraiment beaucoup de recul sur ce qui se passe aujourd'hui. Et justement, le fait d'ouvrir une journée spécialement pour les professionnels et les chercheurs et les universités, c'est pour aussi donner un état de fait de la recherche à un instant T ou des expériences qui sont menées aujourd'hui. Tout simplement.
Comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la chronique que nous venons de rediffuser, il y a de multiples attaques politiques sur les makers. Ça n'a pas changé. Ça a même, il y a même de nouvelles actuellement, entre-temps, qui sont apparues. Finalement, le Fab Lab Festival, est-ce que ce n'est pas devenu aussi un outil de lobbying, quelque part? La possibilité, je ne sais pas, de faire venir des nouvelles stars à la politique comme Emmanuel Macron, des personnes politiques étrangères comme un ministre marocain, c'est pas une manière de dire, ben, on est là aussi et il va falloir aussi nous accepter.
Oui, tout à fait. C'est aujourd'hui accepter le fait aussi que ce genre de mouvement prend de l'ampleur et commence à s'installer, commence à évoluer. Et il reste à tout à chacun de donner la direction que l'on souhaite à ce mouvement par ce genre de d'assises ou de... Je ne sais pas trop comment...
D'accord. Camille, toi-même, en tant que maintenant personne qui est dedans et de la partie, comme on dit, entre personnes qui se regardent en disant « Ah, elle s'est manipulée une clé à molette », quelle est la chose dans la journée professionnelle sur laquelle tu aimerais dégager un petit peu de temps en dehors de l'organisation pour aller voir le truc que tu as envie d'aller regarder, voire essayer?
Alors c'est ça qui est assez compliqué, c'est que il y a...
T'as pas fait ton choix encore.
Non, tout à fait. Et surtout, il y a... Par rapport à l'année dernière, on a pu occuper en fait l'espace entier de la halle, ce qui fait qu'on a dégagé un espace de conférence pour 200 personnes. Et en plus de cet espace de conférence, il y a encore trois autres espaces mis à disposition pour des ateliers, des tables rondes, des présentations de projets, des présentations de lieux. Donc ça donne une programmation assez dense avec trois programmations en fait simultanées en même temps. Donc c'est c'est assez difficile de faire son choix. Et encore, je le redis, entre des présentations de projets, entre des présentations de lieux, entre des tables rondes où sont confrontées plusieurs idées et où est mené un débat sur l'économie du numérique ou l'économie de l'open source ou de l'open hardware ou l'économie et les business models des Fab Labs aujourd'hui. Il y a autant de sujets intéressants.
Et nous sommes donc toujours avec Camille Platevoet, formatrice en machine-outils au Fab Lab Artilec, justement à propos de la cinquième édition du Fab Lab Festival qui a lieu ce week-end. Quand Solarus dit que malheureusement les Fab Labs communiquent assez peu sur ce qui se passe dans leur mur, est-ce que toi tu es d'accord là-dessus ou est-ce que tu penses qu'il y a un effort à faire ?
Je suis assez d'accord avec cette observation. Il me semble que c'est aussi ce manque de visibilité qui fait que quand on rentre dans un lieu de fabrication numérique, on ne comprend pas forcément tout de suite ce qui s'y passe et aussi comment ça fonctionne, c'est-à-dire comment je peux être adhéré, est-ce qu'il faut que je sois adhérent pour utiliser les machines, comment je peux réaliser mon projet, quelle sorte de projet je peux réaliser, quelles sont les limites. En fait, il n'y a pas trop de mode d'emploi aujourd'hui quand on rentre dans un Fab Lab.
C'est un peu ce qui permet justement d'entrer sans a priori.
C'est ça, et c'est aussi ce qui permet la grande liberté qu'on peut avoir aujourd'hui dans ces lieux-là, justement. Le fait que qu'il n'y ait pas de limite à proprement parler et qu'on puisse expérimenter, apprendre en faisant et faire avant toute chose. Mais en effet, pour que peut-être assurer une plus grande force au mouvement et une plus grande stabilité, le fait d'avoir une meilleure communication sur les projets qui émergent et une meilleure visibilité des projets qui s'y créent. Je me suis un peu perdue dans le temps. Donc voilà, oui, c'est que s'il y avait une meilleure visibilité, voilà, des projets où, mais plusieurs, en fait, justement, au Fab Lab Festival là, ce week-end, il y a plusieurs personnes qui travaillent sur cette problématique. C'est en fait.
C'est justement l'intérêt de cette journée professionnelle, parce que des fois, on parle de trucs qui sont support en fait au Fab Lab, avant même de parler de ce que l'on y fait. Donc justement la gestion administrative et la gestion de la communication.
La gestion de la communication, la gestion administrative et aussi l'archivage en fait. Et la question de l'archivage des projets, que ce soit par une vidéo mise sur YouTube ou un document PDF mis en ligne sur les réseaux sociaux ou transmis par tout un chacun, ou alors simplement une image mise sur le site du Fab Lab. Ce genre de processus se met en place petit à petit, en fait.
On parlait justement, Solarus a fait une allusion aux entreprises qui créent des Fab Labs, des fois plus ou moins en interne. C'est le cas, par exemple, d'un industriel toulousain qui est dans l'agroalimentaire, le groupe Poult, qui en a fait une espèce d'incubateur, justement, pour créer de nouvelles technologies et tout ça. Et en même temps, justement, ils ont énormément travaillé sur la partie communication de ce côté-là. Ils ont quelque chose à apporter, ou bien c'est juste le côté démesuré de moyens qui fait que vous ne viserez pas forcément ce niveau-là d'industrialisation, justement, de communication autour des projets.
Alors, j'ai pas forcément très bien compris la question.
Bon, c'est pas grave. Mais je veux dire, eux, justement, les projets qui naissent en interne, ils communiquent énormément là-dessus et ils les mettent énormément en avant.
Oui, puisque c'est une valeur ajoutée, eux, de leur côté, du côté de leur entreprise. Après, il faut savoir donc que Artilec, donc le Fab Lab de Toulouse, a aussi créé le Artilec Lab, donc la partie professionnelle, qui collabore avec ce genre de structure et d'entreprise pour travailler sur ce genre d'innovation, notamment avec des imprimantes avec du chocolat, justement, ou ce genre de choses. Mais c'est une partie des projets. Et, mais en effet, je pense qu'on n'a pas les moyens aujourd'hui de rivaliser avec ce genre d'entreprise.
Camille Platevote, juste une question, et elle est vraiment personnelle, celle-là, vis-à-vis de ton expérience que tu as eue au Fab Lab Artilect, une expérience aussi que tu as peut-être accueillir au Fab Lab Festival. Est-ce que tu penses que finalement, tu as peut-être trouvé une voie professionnelle de ce côté-là?
Il me semble que, enfin, de mon côté, en tout cas, les outils numériques m'ont toujours attirée, puisque je crée des projets, je fabrique. Pendant mes études, j'ai travaillé dans des ateliers de moulage, de matériaux composites, de sculpture ou de menuiserie ou de ferronnerie. Donc le côté prototypage rapide m'intéresse grandement. Après, on verra où ça nous mènera.
Merci beaucoup.